Voilà, nous allons passer maintenant un moment dont on va se plonger dans la parole du Seigneur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va rester sur ces versets qu'on a lus. Je vais les relire ainsi, puissions rester attachés à ces versets. C'est dans Matthieu au chapitre 21. Les versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple qu'on a vu, le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Ce que je vais dire, c'est encore, bien sûr, à réfléchir et regarder si c'est bon. Un passage qu'on connaît très, très bien. On retrouve ce passage dans les quatre évangiles. À chaque fois que vous allez lire un évangile, vous allez tomber sur ce récit. Alors certains disent, oui, mais comment comprendre que Matthieu, Marc, Luc parlent de ce récit à la fin du ministère de Jésus-Christ? Que Jean, lui, il le met au début du ministère de Jésus. Et ça cause un problème pour certains. Mais il n'y a aucun problème. Jésus l'a fait deux fois. Est-ce qu'il y a un problème si Jésus l'a fait deux fois? Non. Alors ce passage est très important, comme toute la Bible. Mais nous voulons vraiment ce matin réfléchir ensemble. Avant que Jésus entre dans le temple, nous allons voir ce qui se passe. Il y avait cette grande et grande fête juive. C'est la fête de Pâques. Elle arrive, elle est proche. Et tous venaient à Jérusalem pour adorer. Tous les Juifs qui habitaient à l'étranger revenaient à Jérusalem pour Pâques, pour adorer. Mais il n'y avait pas que les Juifs, mais aussi les païens, les non-Juifs venaient aussi à Jérusalem pour adorer. Nous voyons ça dans Actes au chapitre 8. L'histoire avec l'Éthiopien. Il était venu pour adorer. Nous avons vu ce beau temple. Et dans ce parvis extérieur, c'était l'endroit des païens. Pour les non-juifs, aussi pour les juifs. Et là, il est dit qu'il y avait des marchands d'animaux et des marchands, des changeurs de monnaie. Logiquement, ce n'est pas le bon endroit. On pouvait le faire, et c'était comme ça, sur la route de Jérusalem, des marchands. Mais ils ont fait ça à l'intérieur, au parvis extérieur. Et là, on pense, on n'est pas sûr, mais on peut comprendre un petit peu l'histoire. Certains religieux, les souverains sacrificateurs, c'était des hommes très puissants. Et l'an 6 de l'époque de Jésus, à l'an 15, le souverain sacrificateur était Anne. Je ne sais pas si on se souvient de lui. C'est quand Jésus se fait arrêter, c'est la première personne qu'on va amener Jésus chez Anne. Pourtant, il n'est pas souverain sacrificateur à cette époque-là, mais, il a encore ce titre de souverain sacrificateur. Par contre, quand Jésus se fait arrêter, le souverain sacrificateur, c'était Caïphe. C'est qui? Mais c'est le beau-fils de Anne. Lui, il est resté 20 ans comme souverain sacrificateur. C'est beaucoup, hein? 20 ans. On pense qu'il avait les Romains dans sa poche. Aucun problème. Il avait tous les Romains dans sa poche. Et là, ses chefs se sont dit peut-être, mais l'endroit du parvis extérieur, ce sont les païens. Si les païens peuvent rentrer, ah ben n'importe quoi peut rentrer dans cet endroit. C'est pourquoi il y avait des marchands d'animaux et ces marchands de monnaie. On vendait quoi? Bon, il faut relire dans les quatre évangiles, on vendait des brebis, des bœufs, des pigeons pour les sacrifices. Mais certains spécialistes disent même qu'il y a autre chose qu'on vendait. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ça. Et il y avait aussi les changeurs d'argent. Oui, tous ceux qui venaient des pays étrangers devaient payer avec la monnaie locale. C'était des shekels. Alors, ce qui se passe à cet endroit, c'est qu'on vendait ces animaux à un prix plus élevé. C'est normal. Ceux qui cultivent, ceux qui gardent ces animaux doivent gagner leur pain. Mais on dit que on vendait ces animaux 10 fois plus. Si c'était 100 euros, on vendait 1000 euros. C'était exagéré, exagéré. Bien sûr, là derrière, il y avait un bénéfice pour les sacrificateurs. Il y avait une bonne recette pour ces sacrificateurs. Tous ceux qui venaient des pays étrangers ne venaient pas, bien sûr, avec sa brebis, son pigeon, son bœuf. Je me vois mal, moi, d'ici, à Gouy, aller à Jérusalem avec mon bœuf. C'est trop difficile. Alors, pourquoi ils n'ont pas acheté ça sur la route de Jérusalem? C'était un risque. Quel risque? Mais les principaux sacrificateurs, c'est eux qui jugeaient si les animaux étaient valables ou pas valables. Alors, acheter sur la route, c'était un risque. Vaut mieux l'acheter sur place. Mes frères et sœurs, on parle qu'il y avait à cette époque-là 200 000 agneaux qu'on sacrifiait. Pour cette fête, 2 millions de personnes venaient à Jérusalem. Si on puisse réaliser combien de monde était là au temple. Bien sûr, il avait ses changeurs de monnaie. On devait acheter avec la monnaie locale, les shekels. Mais là aussi, il faisait une bonne, et je dirais une très bonne devise à l'échange. Il y avait aussi l'offrande du temple. Tout homme, pas les femmes, mais tout homme juif à l'âge de 20 ans était tenu à payer l'impôt annuel exigé par le service du temple. Et là aussi, c'était avant Pâques, on payait ce. Et là aussi, il y avait un bénéfice pour eux à l'échange, tous ceux qui venaient des pays étrangers. Voilà que le temple de Dieu devient un marché religieux, un commerce. Ça crie à l'intérieur. Qui veut mes brebis? Qui veut mes bœufs? Qui veut mes pigeons? Ça crie fort. Je ne sais pas si ça vous arrive d'aller au marché. Nous, quand on va en France, Myriam me dit à chaque fois, « Gino, aujourd'hui, on va au marché. » Et un bon mari se soumet et dit, « Oui, chérie, on va aller au marché. » Et en France, ça crie. Mais qui a déjà été au marché en Sicile? Là, ça crie. J'ai un collègue, dès le matin, il est tout près de moi, et ça arrive souvent qu'il me dit, Gino, on dirait qu'on est au marché de Palerme. Parce que de l'autre côté, il y a deux, trois Siciliens, dès le matin, ça crie, ça crie. Et il me dit toujours, c'est le marché de Palerme. Je vais imiter un tout petit peu le marché. Vous voulez bien? Alors ça crie, pomodoro, pomodoro, melinjane, melinjane. Ça crie fort. Mais on rigole, mais c'est vrai, c'était comme ça. Mais celui qui était là en train de prier, il ne sait plus s'il disait, il dit amen à sa prière ou amen pour ses bœufs, ses brebis, ses pigeons. Il ne savait plus quoi. Un marché, ça criait dans tous les sens. Et Jésus entre dans le temple et il voit ce qui se passe. Jésus est en colère. On n'aime pas dire que Jésus est en colère. On le voit qu'il est tout doux, tout patient. Il est en colère. Mais c'est une colère juste et sainte. Ce n'est pas une colère comme nous. Jésus est unique. Sa colère est juste, sainte. Il ne s'en prend pas aux marchands, aux Romains. Il s'en prend à ses religieux. Et Jésus, par cette colère sainte, il veut remettre les choses en ordre. Il purifie ce temple. Patrick, la semaine dernière, il a parlé que Jésus a pris la colère de Dieu sur lui. Mes frères et sœurs, quand Dieu verse sa colère sur Jésus, c'est pour que les hommes et les femmes puissent revenir à Dieu. Et ici, cette colère, elle est là pour que ces religieux réalisent « c'est pas bien ce qu'on a fait. On a triché. » Qu'on puisse vraiment demander pardon. Il a raison ce qu'il dit. Ma maison sera une maison de prière. Je ne sais pas si on a fait attention quand Jésus dit « ma maison ». Non, c'est la maison de Dieu, du Père. Le Père et le Fils sont un. Ma maison sera appelée maison de prière. Et non, une caverne de voleurs. Jésus commence à chasser ces animaux et ces changeurs de monnaie. Je ne sais pas si on réalise ce qu'il est en train de faire, Jésus. Ces animaux sont chassés. Ça court dans tout le parvis, ces animaux, dans toutes les directions. Les monnaies tombent et roulent. Il y a certains, ils mettent leurs pieds sur la monnaie et regardent alentour d'eux, il n'y a personne, hop. Peut-être, peut-être. Jésus est en train de chasser tout ce qui est mauvais. Et si on réalise bien, si on regarde bien ces versets, il n'y a personne, personne ne met la main sur Jésus. Il y avait beaucoup de monde. Mais personne ne met la main sur Jésus. Car cela est impossible. Pas plus que les lions n'ont pu mordre le prophète Daniel. C'est pourquoi Anne, le souverain sacrificateur, quand Jésus se fait arrêter, c'était le premier voulait voir Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Peut-être il lui a dit, tu te rappelles, ce jour de Pâques, tu m'as fait perdre de l'argent. Jésus dit, ma maison sera une maison de prière. Une maison de prière qui veut dire une maison d'adoration. On venait au temple parce que Dieu était au centre de ce temple. Et les hommes et les femmes venaient pour cette relation avec ce Dieu tout-puissant, pour demander pardon, pour passer ce moment où on déposait, comme ce matin, ses fardeaux, ses soucis, ses inquiétudes, sa souffrance de maladie, toute autre chose. On venait à ce temple et on passait ce temps avec ce Dieu. Ce Dieu qui a libéré de l'esclavage en Égypte. Dans le psaume 27 qu'on connaît très bien, il est dit « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans ta maison, dans la maison de l'Éternel. » Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Son temple. Nous arrivons à l'application. Qu'est-ce qu'on peut retirer aujourd'hui pour nous? Il n'y a plus de sacrifices d'animaux. Il n'y a plus de sacrifices aussi pour échanger l'argent. Mais il y a encore, bien sûr, les sacrifices du corps, de notre cœur. Alors, la première application. Nous avons tous connu ce confinement. Et peut-être qu'on arrive encore à ce confinement. Et nous avons certainement regardé des cultes sur Internet. Il y en a tout plein. Et c'est bien, je vous encourage de regarder. Mais de plus en plus, mes frères et sœurs, il y a ces cultes et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de prêcher et de prêcher la prospérité. Rien que le dire, j'ai déjà peur. Comment ils font pour prêcher cela? Donne de l'argent à Dieu. Il te bénira. C'est horreur. C'est pas beau. Donne de l'argent et il te bénira. Donne de l'argent et tu seras plus pardonné. Donne de l'argent et tu seras guéri. Tu seras en bonne santé. Donne de l'argent et tu auras du succès dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton église. Donne. Donne. Certains disent, si tu n'as pas le sourire, c'est que Dieu ne te bénit pas. C'est triste d'entendre ça. Est-ce qu'on doit avoir tout le temps le sourire? Ça arrive qu'on n'a pas le sourire. Moi, quand j'entends à la télévision ce qui se passe, je ne suis pas là, ouais, super. Non, je suis triste. J'ai envie de porter ces malades. J'ai envie de porter ces médecins. C'est normal qu'il n'y a pas le sourire. Si tu es malade, il commence à te dire, c'est que tu n'as pas fait confiance en Dieu. Horrible d'entendre ça. Déjà, tu es malade, et en plus, on te dit ça deux fois, on est malade. Et quand on prie pour toi, et on te dit, mais tu dois dire que tu n'es plus malade. Combien d'hommes et de femmes qui se disent « Nous sommes des hommes et des femmes d'église et mettre des obstacles pour les hommes et pour les femmes. Luther était en colère et en colère également avec ces personnes qui vendaient la grâce de Dieu à un prix d'argent. À l'époque de Luther. Et aujourd'hui, on le prêche partout. Aujourd'hui, nous, les croyants, on doit pleurer. Pleurer comme Luther l'a fait pour que Christ purifie l'Église. Pour que Christ purifie l'Église. Le jugement, mes frères et sœurs, doit commencer dans la maison du Père, comme Jésus l'a fait. Il y a un beau verset dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Je relis. « Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? L'Église de Dieu ne doit pas être un marché. On vend la grâce, on vend la bonne santé, qu'on vend le pardon, le sourire, la joie, etc. L'Église n'est pas une entreprise. Avoir un bon rendement avec les meilleurs chrétiens, les meilleurs prédicateurs, les meilleurs musiciens, la meilleure école de dimanche pour essayer de vendre et de vendre l'Évangile. Si c'est le cas, jumé, nous voulons vraiment demander pardon à Dieu. Jésus doit être au centre de l'Église. Au centre de l'Église, c'est le moment, mes frères et sœurs, où on se réunit ensemble pour l'adorer, pour prier ensemble, pour le remercier, pour lui dire merci pour cette paix que tu mets quand même dans notre cœur. Merci pour ton amour, merci pour le pardon, merci pour la grâce. Merci parce que tu portes mes fardeaux, mes soucis, mes inquiétudes. La maison de Dieu, elle est là pour que l'Évangile soit connu pour les uns et pour les autres. La grâce de Jésus, ce qu'il a accompli pour nous sauver. Alors, je termine avec ça. Si Jésus vient aujourd'hui à Jumé, qu'est-ce qui va chasser Jésus? Est-ce qu'il doit chasser quelque chose ici à Jumé? J'espère que non. Mais je crois vraiment, certaines églises, sans juger, il va chasser ceux qui se remplissent des poches. Et ce message, j'espère, quand ils le lisent, puisse revenir à la croix et demander pardon. Parce que Dieu voit tout. Benoît, Mehdi, durant ces semaines, nous ont parlé que nous sommes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Mais nous avons également ce parvis extérieur. Est-ce que Jésus doit chasser l'une ou l'autre chose dans ce parvis extérieur? Qu'il le fasse par nous, qu'on lui demande pardon et qu'il retire ce qui est mauvais. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. La maison de Dieu est un moment où on veut partager les uns les autres nos soucis, nos inquiétudes, nos pleurs, comme les chants on a chanté, nos soucis, qu'on puisse vraiment déposer cela à Dieu. Jésus nous donne ce moment pour qu'on puisse en profiter, déposer tout à Dieu. Que Dieu nous aide durant cette semaine. Amen.